Merci beaucoup Claire Flochel. Vous revenez à 18h pour le prochain journal. Et d'ici là, une histoire pour les enfants et pour tous ceux, toutes celles qui ont été des enfants un jour.
Moi, je me rappelle que c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle a deux sœurs. Ses deux sœurs sont jalouses d'elle.
Ils étaient très pauvres et tout. Et pour gagner de l'argent, ils sont partis combattre pour un château. Enfin, je suis pas très sûre, mais bon.
Et elle trouve un prince qui a eu un sort, un mauvais sort. Et il a été transformé en bête. Il y a des personnes qui sont pas très gentilles parce qu'il a des défauts, mais elle se rend compte qu'il est plutôt très sympa. Et en fait, je crois qu'un jour, elle l'embrasse et elle redevient prince.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est fou comme un mot de rien du tout peut changer de visage selon la façon dont on l'emploie. Quand j'étais petite et que j'avais peur d'une araignée ou d'une guêpe, ma grand-mère me disait « Les petites bêtes ne mangent pas les grosses ». La grosse bête, c'était moi. Et le mot « bête », il était tout doux. Il servait à faire le lien entre la guêpe et moi, tous des animaux après tout. Mais dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le mot « bête » est effrayant et repoussant. La Belle et la Bête est un dessin animé de Disney. C'est aussi un film de Cocteau. Mais saviez-vous que c'était d'abord un conte de Madame le Prince de Beaumont, lui-même inspiré d'un autre texte signé Madame de Villeneuve? Pourquoi diable a-t-on oublié ses autrices? Quel regard offrait-elle sur l'amour à leur époque, le XVIIIe siècle? Et comment peut-on lire ce conte aujourd'hui? Que dit-il de la beauté, de la laideur et des inégalités entre les hommes et les femmes? Reconnaissez qu'il serait trop bête de ne pas se poser toutes ces questions. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Et je vous présente les deux invités qui vont nous aider à plonger dans cette histoire, la Belle et la Bête. Bonjour David Sala.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue, vous êtes dessinateur. Merci. Vous avez notamment adapté en bande dessinée Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig chez Casterman. Et nous vous avons invité parce que vous avez illustré aussi La Belle et la Bête. C'est un livre magnifique, toujours chez Casterman. C'est le texte original, celui de Madame le Prince de Beaumont, que vous avez mis en image et en couleur. Il y a du doré, il y a de l'or parmi ces couleurs, David Sala. Ça donne une tonalité flamboyante au livre. Pourquoi ce choix de l'or?
Alors, la première chose qui m'avait sauté aux yeux, c'est toute cette magie. C'est un personnage extraordinaire et je me suis demandé comment on pouvait montrer ça encore un peu plus, voilà, dans les images.
Vous parlez de la bête, le personnage extraordinaire.
Ouais, tout à fait. C'est une sorte de magicien incroyable. Et l'idée du doré, on l'avait exploré déjà dans un livre précédent qui s'appelait La colère de Banshee. Et effectivement, on s'était dit, moi je me suis dit que ce serait intéressant effectivement de l'intégrer. Alors sur les originaux, les dessins originaux, c'est de la feuille d'or. Là, c'est une couleur dorée, mais qui apporte quand même effectivement quelque chose d'assez lumineux, d'assez magique, un peu quand même.
Ouais. La bête a des bois comme un cerf sur la tête et ses bois sont en or. Iris Bray est aussi mon invitée. Bonjour à vous.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes autrice et critique de cinéma, spécialiste des représentations du genre. Vous avez très récemment fait paraître un ouvrage pour les ados. Ça s'appelle « Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard », édition La Ville Brûle, illustrée par Myrion Mal. Vous montrez dans ce livre comment les images de fiction ont une influence sur ce que nous sommes, sur ce que nous pensons, sur notre manière de vivre. Et vous expliquez très concrètement comment les films et les séries peuvent véhiculer des stéréotypes sexistes. Vous avez fait connaissance, Iris Bray, avec cette histoire-là, avec La Belle et la Bête, pendant vos études, je crois, à l'université. Quels souvenirs gardez-vous de cette rencontre ?
En fait, avant de m'intéresser au cinéma, je m'apprêtais à être 17e quand j'ai commencé à faire ma thèse.
Donc spécialiste du 17e siècle.
Et notamment, en fait, des autrices du 17e et du genre du conte de fées. Parce qu'il faut savoir que c'est les salonnières qui ont inventé ce genre et ce n'est pas Monsieur Perrault.
Très joli mot, salonnière, il faut peut-être l'expliquer.
Oui, au 17e siècle, les femmes se réunissaient de la haute bourgeoisie, de l'aristocratie, en fait, tenaient salon. Elles discutaient ensemble et elles lisaient en fait ensemble les contes et parfois même elles écrivaient les contes pendant les réunions. Donc c'était vraiment une forme littéraire qui part de l'oralité. Et c'est quelque chose que, si on lit en fait les contes des Salonnières et qui viennent du XVIIe siècle, c'est souvent des contes assez féministes. Et c'est une langue très différente, mais qui est aussi merveilleuse en fait. C'est pour ça qu'on appelle les précieuses, hein, la préciosité. C'est une langue française extrêmement riche, très ornée, avec beaucoup de doré aussi. Ah. Et donc voilà, moi c'est vrai que quand j'ai découvert ces contes de fées, je suis un peu tombée amoureuse de ce qui était raconté là-dedans, et c'est quelque chose qui me suit.
Je suis sûre que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices apprennent à l'instant que c'est une femme qui a écrit La Belle et la Bête. Ça vous surprend ?
Non, ça me surprend pas, parce qu'en fait, ça fait partie de l'effacement, de toute façon, des femmes autrices de notre histoire. Et c'est vrai que d'abord, c'est Madame de Villeneuve qui a écrit la première version. Et donc, elle était vraiment autrice de l'Ancien Régime. Mmh. Et ça ne m'étonne pas, parce que, en fait, Perrault, tout le monde connaît en fait les contes de Perrault, mais comment est-ce que Perrault commence à s'intéresser aux contes ? C'est par sa nièce, qui elle était une salonnière assez connue, qui s'appelait Marie-Jeanne l'héritier de Villandon, et en fait elle écrivait des contes à Perrault, ils ont commencé à avoir une correspondance autour des contes, et lui s'est réapproprié le conte, a enlevé les personnages féminins un peu trop forts et les discours féministes un peu trop forts, il a lissé tout ça, et c'est devenu des best-sellers, et c'est ça qui est resté aujourd'hui.
C'est magnifique. Et c'est devenu ensuite un dessin animé de Walt Disney qui est sorti en 1991. Il y a eu une version en prise de vue réelle sortie en 2017 avec Emma Watson dans le rôle de la Belle. On se souvient aussi, bien sûr, du film de Jean Cocteau. Le conte démarre ainsi. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ça n'est pas rien, Iris Bray, de mettre ainsi l'accent dès le départ sur l'éducation des enfants, de tous les enfants, les garçons et les filles.
Oui, mais il faut savoir que Madame le Prince de Beaumont, qui récupère ce conte, et là on est en train de dire sa version, était quelqu'un qui faisait beaucoup de pédagogie, qui comprenait l'importance du savoir, du partage des mots et de l'héritage, en fait, qui était la pédagogie. Donc ça, voilà, c'est pas étonnant que ce conte-là lui ait parlé aussi spécifiquement.
Alors, on l'apprend très vite, les 3 filles du marchand sont très belles, mais seule la dernière, la cadette, se fait admirer parce qu'elle est belle et meilleure que ses sœurs. Elle a une plus belle âme, elle passe son temps à lire. Le papa, un beau jour, se perd dans la forêt et se retrouve dans un château. Il y passe la nuit et avant de partir, il pense au cadeau qu'il avait promis à Belle, sa fille. Il avait promis de lui rapporter une rose. Alors, il va cueillir une rose et apparaît le maître des lieux, extrait du film de Jean Cocteau.
Hélas ! Alors, cher monsieur, vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort.
Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une.
On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête. Je n'aime pas les compliments. Ne cherchez pas à comprendre. Vous avez 1 quart d'heure pour vous préparer à mourir.
Monseigneur !
Encore ! La bête vous ordonne de vous taire. Vous avez volé mes roses et vous mourrez. À moins qu'une de vos filles... Combien en avez-vous ?
3.
À moins qu'une de vos filles consente à payer pour vous et à prendre votre place.
Mais...
Ne raisonnez pas ! Filez ! Profitez de la chance que je vous donne. Et si vos filles refusent de mourir à votre place, jurez de revenir dans 3 jours. Jurez !
Je le jure !
Jean Marais, terrifiant en bête, le film de Cocteau qui date de 1946 est très proche du texte de Madame le Prince de Beaumont, contrairement aux autres adaptations et notamment au dessin animé de Disney qui s'éloigne un peu du texte original. Alors on l'entend, David Salah, la rose est au cœur de cette histoire. Les fleurs sont aussi très présentes dans votre livre, dans votre album Jeunesse. Est-ce que c'est une grande partie du plaisir que vous avez pris à illustrer ce conte de fées ?
En partie, le premier défi, c'était déjà de s'approprier ce texte.
Ça n'est pas rien.
Ce n'est pas rien. Et puis d'essayer de prendre du plaisir à créer un univers étrange. de pas être trop près effectivement du film de Cocteau non plus. Donc c'est pour ça qu'effectivement avant je l'ai pas revu, je l'avais vu quand j'avais une vingtaine d'années. Et effectivement quand j'ai décidé de faire ce travail, je l'ai pas revu pour pas trop subir son influence. Mais c'est vrai que le plaisir de dessiner toute cette végétation, ces costumes et de pouvoir jouer avec la couleur, c'était un élément hyper passionnant.
Beaucoup de fleurs donc, et j'ai songé en lisant votre livre à Gustav Klimt. Il y a quelque chose dans les silhouettes, dans les couleurs qui rappellent les tableaux du peintre autrichien. Qu'est-ce que vous dites de ce lien?
Oui, il est présent un peu partout dans mon travail. C'est un des peintres qui m'a bien sûr marqué pendant ma période de formation. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui s'y prêtent dans cet univers. Alors c'est vrai qu'il y a le doré, mais effectivement, comme vous en parlez, il y a aussi le travail des silhouettes, des costumes. Le lien est très fort, bien sûr.
Et votre personnage de la Belle vient directement d'une peinture de Klimt.
Elle pourrait, c'est vrai.
Elle est sortie du tableau. On le disait, la Bête, dans votre livre, a des bois de serre. Et c'est un hommage involontaire, je crois, à Jean Cocteau.
Je l'ai appris lors du salon de Montreuil où j'ai rencontré...
Salon du livre jeunesse.
Où je venais, alors le livre était en cours et j'apportais mes premiers dessins à mon éditrice pour lui montrer. Donc j'avais 5-6 dessins qui étaient prêts. Et j'ai rencontré la petite nièce de Jean Cocteau qui était là. Et donc je lui ai montré mes premiers dessins et... La première chose, quand elle a vu la manière dont j'avais représenté la Bête, elle m'a dit « Mais c'est incroyable, c'est un superbe hommage à Jean Cocteau, c'est bois de serre. » Alors sur le coup, je suis un peu interloqué, je réfléchis, mais hyper vite, je me suis dit « Mais il avait des bois de serre dans le film ?»
Bah non.
Et non, il l'avait pas, mais donc je comprenais pas. Et puis elle m'a dit « Mais vous avez sûrement dû voir les recherches de Jean Cocteau. » Et dans ces recherches, effectivement, ces carnets de croquis, il avait projeté de mettre des bois de serre à la Bête. Alors, ça n'a pas pu se faire à cause de problèmes techniques.
C'était trop lourd à porter pour Jean Marais, voilà. Peut-être.
Mais c'était sa première idée, donc j'ai trouvé ça forcément extraordinaire.
Bon, on vous a jeté un sort, c'est un conte de fées.
Ouais. Donc c'est vrai que quand je l'ai appris, j'étais ravie.
La Belle va donc accepter de se sacrifier pour sauver son père. Elle va aller vivre dans ce château avec la Bête. Cette histoire, évidemment, interroge notre rapport à la beauté et à la laideur. Notre reporter Juliette Proutot a tendu son micro à des enfants.
Être moche, c'est qu'on n'a pas un visage parfait. On n'est pas spécialement très joli.
Quand on est moche à l'intérieur et beau à l'extérieur, moche, ça veut dire que, par exemple, il n'est pas très gentil. Alors que beau, ça veut dire qu'on s'en fiche un peu qu'il soit moche.
Il y a des gens qui sont beaux et qui sont moches de cœur, et il y a des gens qui sont moches du physique, mais ils ont un bon cœur. Enfin, être beau de l'intérieur.
Si quelqu'un est beau mais qui est méchant, bah, on va pas vraiment être avec cette personne-là. Ouais. Mais en vrai, la Bête, elle avait un bon cœur. Même si elle,
on
si
pas
elle
pu
était.
Le voir parce que comme elle était moche de physique, du coup, on pensait tous que qu'elle était moche aussi d'intérieur. Et en fait, comme elle a accepté comment il était, alors après,
il est devenu beau de l'extérieur aussi.
Être moche, ça veut dire qu'on a des habits tout déchirés et qu'on fait des crimes.
Et être beau, ça veut dire que on est bien coiffé, on est bien habillé, et presque à la fin, Bête, elle était bien habillée quand elle avait pris son bain. Après, ils ont dansé. Belle, elle était bien habillée avec une robe jaune.
Il vaut mieux être gentil, beau
et être beau
et bien parler, comme bonjour, salut, comment ça va?
Et moche, ça veut dire, je sais pas.
Moche, on peut être moche dans le cœur ou se trouver moche, et on peut être beau de l'extérieur et beau à l'intérieur.
Si on est un peu couvert de feuilles ou d'autres trucs et qu'on a des habits un peu moches, on est un peu moche. Et si on a des habits propres et ils sont un peu neufs, on peut dire qu'on est beau.
Moi, j'aimerais être beau.
Si, je trouve que je suis beau.
Il vaut mieux être quoi alors?
Être lui-même, être ce qu'on pense.
il vaut mieux être lui-même. Voilà une parole de sagesse. Il y a pas mal de pépites hein, dans ce qu'on vient d'entendre. Être beau, c'est bien parler. Être beau, c'est dire bonjour. Et puis surtout, quand on est couvert de feuilles, on n'est pas très beau. Que retenez-vous, Iris Bray, dans ses propos d'enfant sur la beauté intérieure?
Je pense que c'est très fort, en fait, ce conte, ce que ça raconte et la manière dont eux y perçoivent l'enjeu, en fait, du conte. Parce que même si aujourd'hui on parle beaucoup de cette beauté intérieure, il me semble que l'autre enjeu du conte dans cette apparition de la bête qui fait si peur, il faut savoir que dans la version de Madame de Villeneuve, la première version, la bête a une énorme trompe. Une trompe d'éléphant. Elle n'est pas du tout...
Ça n'est pas un cerf, c'est un éléphant.
Et en fait, il y a un rapport à la sexualité là-dedans, et c'est la première fois qu'une jeune fille va découvrir la personne qu'elle doit épouser, et ça parle en fait du mariage forcé au XVIIe siècle. Et donc, voilà, derrière... C'est aussi l'idée qu'il va falloir un peu se forcer pour s'habituer à la bête et trouver une beauté. Mais voilà, ça parle en fait de qu'est-ce que c'est que le mariage.
C'est désespérant, cette lecture-là.
Bah oui, mais enfin, ça raconte autre chose. C'est à quel point les femmes doivent s'accommoder des bêtes pour survivre.
Comment va se dérouler la colocation entre la belle et la bête? Vous le saurez en écoutant la suite de Barbatruc. Voici d'abord Billie Eilish.
Dimanche soir, Dorothée Barba sur France Inter.
Cette émission est réalisée par Christophe Humbert et préparée par Anne-Sophie Dazard. Fabrice Desmaz est à la technique et la programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La Belle et la Bête au menu de cette semaine, un conte publié au XVIIIe siècle par Madame le Prince de Beaumont, injustement oublié. Elle-même s'était inspirée de textes précédents, Iris Bray, et il faut revenir sans doute sur la biographie de Madame de Villeneuve, la première autrice de ce texte qui a son importance dans l'histoire.
Oui, Madame de Villeneuve a été mariée à un homme qu'elle n'aimait pas et qu'elle a quitté en fait très rapidement au bout d'un an parce qu'il jouait trop et perdait trop d'argent. Ils ont quand même eu de cette union de un an une enfant. Mais elle fréquentait aussi beaucoup Madame d'Aulnoy qui elle avait été mariée à l'âge de 15 ans. Et donc voilà, dans les salons, les femmes autrices de contes de fées parlaient beaucoup en fait de ce rapport forcé aux hommes. Et il y en a très peu qui ont réussi à ne pas se marier. Madame de Scudéry, qui se surnommait Sappho. Voilà, c'était un vrai enjeu, en fait, le mariage forcé et le rapport aux hommes. Et je pense que c'est aussi présent dans La Belle et la Bête.
Je le disais, Iris Bray, vous avez publié récemment un livre pour les ados, Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard. Et vous expliquez aux ados la notion de male gaze et de female gaze. On résume souvent cette histoire à l'idée qu'une histoire serait différente selon que c'est un homme ou une femme qui la raconte. Ça n'est pas exactement ça, d'abord. Et ensuite, qu'est-ce que ça change que cette histoire-là, La Belle et la Bête, ait été écrite par une femme?
Alors, pour moi, ça change beaucoup de choses, parce que le fait que ce conte-là, il émerge, voilà, des salonnières et d'un groupe de femmes qui réfléchit ensemble à la condition féminine, montre qu'en fait, souvent, il y a un sous-texte féministe, quand même, aux contes de fées, lorsqu'ils ne sont pas lissés par Perrault, et que, en fait, toutes ces questions qui nous paraissent très contemporaines, elles existaient depuis très longtemps, et c'est important de réfléchir à la notion d'historicité quand on parle de féminisme, parce qu'on a l'impression que toutes ces questions sont nouvelles, mais en fait, elles sont anciennes, elles sont dans des textes depuis toujours, et voilà, et l'Ancien Régime est une vraie mine, en fait, de textes féministes et de femmes qui pensaient, et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ces réflexions-là, elles ont donné un genre littéraire. Et ça, c'est hyper important de se dire que c'est parce que elles se retrouvaient, parce que elles étaient quasiment non mixité, qu'elles ont inventé ensemble une manière de se raconter différemment de la littérature de l'époque. Et évidemment, après, on s'est moqué des précieuses. Hein, c'est devenu quelque chose...
Les précieuses ridicules.
Voilà, évidemment. Donc c'est... Mais pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement émouvant dans l'idée de l'émancipation par la création et de l'émergence d'un mouvement et d'un genre qui va après marquer le monde entier.
Un mot quand même sur le female gaze. Je disais, ça n'est pas seulement l'idée que le film est réalisé par une femme, c'est aussi qu'on adopte le point de vue d'un personnage féminin.
Oui, c'est ça. Moi, la manière dont je définis le regard féminin, c'est donc pas un regard de cinéaste femme, mais une histoire qui nous permet de rentrer dans le corps, dans l'esprit d'un personnage féminin et d'être avec elle et de partager sa trajectoire et d'arrêter de la regarder comme un très bel objet de loin.
David Sala, je rappelle que vous êtes dessinateur, vous avez illustré chez Casterman La Belle et la Bête. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce la beauté ou la laideur en tant que dessinateur?
On le dit souvent, mais c'est vrai qu'en dessin, c'est plus intéressant de travailler sur des caractères forts. Alors, la laideur, je ne sais pas si elle existe vraiment en dessin.
Elle est très belle, votre bête.
Disons que c'est pareil que pour même des personnages qui... Moi, quand je fais un dessin, c'est la force d'un nez, c'est la force d'un regard, c'est... Et au fur et à mesure, on s'attache beaucoup plus à des gens avec ce type de physique, on pourrait dire, un peu atypique. Voilà. Donc c'est vrai que moi, la bête que j'ai dessinée, moi je la trouve très, très belle, mais c'est un point de vue.
On poursuit cette histoire. La belle, pour sauver son père, a accepté d'aller vivre dans le château de la bête. Écoutons un nouvel extrait du film de Jean Cocteau avec Josette Day dans le rôle de la belle.
Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid.
Je ne sais pas mentir, la bête.
Tout est-il ici à votre convenance?
Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur.
Mon cœur est bon. Mais... je suis un monstre.
Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent.
Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit.
Vous avez l'esprit de vous rendre compte.
Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Exprimez vos moindres caprices. J'apparaîtrai chaque soir à 7 heures. Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. toujours la même.
Quelle est cette question?
Belle, voulez-vous être ma femme?
Non, la bête.
Adieu donc, Belle. À demain.
La Belle ne ment pas, elle ne cache pas son dégoût, ça n'est pas rien, David Sala.
Moi, ce qui m'a plu également, c'est la manière dont la bête met un genou à terre aussi, ce qui est assez étonnant. On voit ce personnage extrêmement fort, qui finalement est complètement désarmé face à cette Belle. Donc, c'est aussi un hommage à la féminité.
Avant même d'en venir au dénouement de cette histoire, on peut évidemment dégager une morale. La plus évidente, elle se résume par une expression très fréquente.
Ne pas se fier à ta apparence.
Bah, ça veut dire qu'il faut pas se demander quelque chose que quelqu'un pense.
Bah, il faut pas croire à tout ce qu'on dit. Et aussi, bah, par exemple, si on voit quelque chose et que bah on croit que c'est vrai, mais en vrai c'est faux.
Quand tu vois par exemple un gros chien qui a l'air très méchant. Et qu'en fait il est très gentil et par exemple ça veut dire ça, il faut passer aux apparences.
Parce que par exemple il y a des gens que ils sont vous les voyez on dirait des gens très gentils et tout ça, mais au fond de eux peut-être qu'ils sont des voleurs ou des gens pas bien, et ça peut être aussi l'inverse. Mais par exemple quelqu'un qui est moche et que on a l'impression qu'il est méchant, mais peut-être qu'au fond de lui, eh ben, il est gentil et qu'il a un bon cœur.
On aime quelqu'un, mais on trouve qu'il a beaucoup de défauts, donc on se dit, faut pas se fier aux apparences. Il a l'air très sympa. Enfin,
si c'est quelqu'un, il a l'air d'être nul à son apparence. En vrai, il est fort. Comme des criminels gentils parfois.
Voilà, ne pas se fier aux apparences. C'est l'une des lectures évidemment que l'on peut faire de cette histoire, Iris Bray. Une phrase tellement courante que c'est presque impensif. Est-ce trop facile comme lecture?
Non, moi ce qui m'intéresse, c'est que cette idée d'apparence et de la laideur peut naître la beauté, c'est intéressant de réfléchir en termes d'adaptation. Pourquoi est-ce que Cocteau, en fait, veut adapter ça au cinéma? C'est que tout d'un coup, il se rend compte que selon le point de vue, selon le cadrage, selon la lumière, selon les contrastes, selon le noir, le blanc, les ombres, d'autres choses peuvent émerger. Et ça, c'est vraiment la puissance aussi du cinéma. Donc je pense que c'est... intéressant qu'il y ait eu autant en fait d'adaptation de ce conte-là, parce que je pense que oui, c'est une question d'image et de comment est-ce qu'on regarde quelque chose et de point de vue.
C'est votre sujet finalement, c'est une histoire de regard, oui. La Belle et la Bête.
Oui, je pense.
David Sala.
Alors, juste avant d'avoir travaillé sur La Belle et la Bête, j'ai travaillé sur un livre d'après un texte de Jean-François Chabas, ça s'appelait Féroce, et on était sur ce thème-là également, c'est-à-dire que c'est un personnage, ce loup, qui est né avec une allure féroce, et à force qu'on lui dise qu'il a l'air féroce et qu'il est féroce, il a fini par le devenir, même s'il ne l'était pas. Donc effectivement, le regard des gens forge même notre propre caractère. Donc c'est une implication qui va même au-delà du point de vue. C'est qu'en fait, ça peut avoir une vraie influence sur notre propre ressenti, sur ce que l'on est.
Et dans ce très bel album, également chez Casterman, un Féroce, qui se déplie d'ailleurs, c'est un livre qui se déplie comme un poster à chaque page, une petite fille rencontre ce méchant loup rouge et elle lui dit « Mais qu'est-ce que t'as une conjonctivite ?» Elle n'est pas du tout impressionnée. Et là, tout bascule.
Et tout bascule.
Mais c'est vrai que moi, j'ai été assez émue en fait en lisant ce livre Féroce, parce que c'est vraiment ça, c'est la question du point de vue, du regard et de comment on est pétri de stéréotypes de genre ou non, et d'autres choses. C'est-à-dire, et quand cette petite fille découvre le loup, tout d'un coup, avec un regard neuf, eh bien, elle y voit autre chose. Et donc, ça raconte, en fait, comment on est tous et toutes pétris d'un imaginaire collectif et de la manière dont on regarde certaines choses qui nous apparaissent comme étant belles ou moches ou bêtes, et que finalement, on peut déconstruire tout ça et découvrir des merveilles.
Et ce pauvre loup est victime de bien des stéréotypes.
Voilà.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien, Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Qui nous foutait la frousse, plein les poils en même temps. La clarté nous pendait au nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
C'était Feu Chatterton sur France Inter, Monde Nouveau. La Belle et la Bête au menu de Barbatruc ce dimanche, avec l'autrice et critique de cinéma Iris Bray et avec le dessinateur David Sala. Poursuivons cette histoire. La Belle veut retourner voir son père, alors la Bête va la laisser partir du château. Dans le conte, il lui dit de revenir avant 8 jours, mais elle tarde un peu plus et quand elle revient, la Bête est en train de mourir. Dans le dessin animé de Walt Disney, c'est un peu différent. Elle revient aussi, mais c'est un homme, Gaston, le méchant prétendant de la Belle, qui poignarde la Bête dans le dos.
Tu es revenu.
Je voulais te sauver. J'ai eu tellement peur. Oh, tout est ma faute. Si seulement j'étais arrivé plus tôt.
Finalement, c'est peut-être mieux comme ça.
Je t'en prie, tais-toi. Tu vas guérir très vite. Je suis près de toi. Tout va s'arranger, je te le promets.
Au moins, je t'aurais revu une dernière fois.
Non, non. Je t'en prie, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Je t'aime.
En général, c'est le prince qui sauve la princesse.
Ben, tous les autres points, mais là, c'est pour inverser les rôles. Ça inverse les rôles et donc ça fait une meilleure histoire. Enfin, c'est ça qui rend bien l'histoire.
Ouais, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose.
Alors que d'habitude, comme dans La Belle au Bois Dormant, c'est le prince qui sauve la princesse avec un baiser et voilà, c'est terminé.
C'est un peu original.
Bah, je suis un peu d'accord. Parce que normalement, c'est le prince, vu qu'il est amoureux de la princesse, le plus souvent, c'est d'abord les garçons qui sont amoureux des filles. En fait, dans cette histoire, c'est presque le contraire.
C'est bien.
Bah oui, ça change.
C'est tout le temps comme ça. Et...
À chaque histoire, c'est comme ça. Du coup, à la fin, on en a un peu marre. Et là, ça a changé.
Et là, ça change. C'est émouvant. Voilà.
C'est plutôt le prince qui sauve la princesse. La princesse enfermée dans un château. À chaque fois, c'est des trucs comme ça. Du coup,
oui, bah... ou dans la mer. Ou je sais pas.
Oui.
Ouais, c'est énervant.
Bah, c'est bien que ça change aussi. Ça dérange pas.
Voilà, la bête s'est transformée en un beau jeune homme après la déclaration d'amour de la belle. C'est vrai que ça change, Iris Bray, une femme qui sauve un homme?
Oui, mais d'ailleurs les enfants le disent très bien, c'est l'inversion de genre et ils trouvent que ça c'est beaucoup plus surprenant et beaucoup plus intéressant. Donc comme quoi il faudrait peut-être écouter les enfants un peu plus souvent.
Mais Disney l'a fait donc.
Oui, enfin je veux dire Disney l'a fait, mais après Cocteau, enfin, je pense que Disney évidemment s'est inspiré de ce que Cocteau avait fait. Et en fait ce que Cocteau fait, qui est absolument incroyable, c'est que il comprend que le merveilleux, ça participe en fait à une esthétique de la surprise. Et ça, c'est très important dans les adaptations. Et les enfants, je pense, sont très sensibles à ça, à l'effet de surprise qu'on peut avoir, comme quand les objets inanimés se mettent à parler. Enfin, là, voilà, tout.
Le chandelier et l'horloge dans le dessin animé, ça, c'est très important.
Ouais, et on s'en souvient, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en souvient? C'est parce que ça crée une surprise. Et donc voilà, ça, je pense que c'est important de voir que, en fait, c'est aussi l'effet de surprise dans l'inversion de genre qui plaît aux enfants. Et je pense que ça nous plaît à toutes et à tous.
Ces objets, effectivement, sont les seuls spectateurs de l'amour naissant entre la belle et la bête dans le dessin animé. C'est une très belle idée, ça, Iris Bray. La théière, la petite tasse ébréchée, ce sont des objets inanimés qui assistent à l'amour.
Encore une fois, en fait, dans le film de Cocteau, il y avait beaucoup de corps qui portaient les lumières, etc. Et il y avait cette notion que nous-mêmes, spectateurs, spectatrices, nous sommes tous ces objets qui regardons. En fait, on assiste à cette histoire d'amour. Mais je pense que le fait que ce soit des objets nous empêche d'être dans la position de voyeur. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime bien le conte et aussi ses adaptations. C'est que on n'a pas l'impression de leur voler quelque chose. On a l'impression d'être à leur côté et d'assister ensemble à la naissance du sentiment et du trouble amoureux.
D'ailleurs, dans le film de Jean Cocteau, on a l'impression que les chandeliers bougent tout seuls, c'est terrifiant.
Ou sublime.
Un autre objet très important dans cette histoire, c'est le miroir. Quel est votre regard sur ce miroir?
Moi, j'aime beaucoup les miroirs au cinéma et en littérature, et je pense que c'est vraiment un motif du conte de fées qui est important, comme la baguette magique. En fait, la baguette magique, ça représentait aussi le stylo des autrices. Hein. Donc, en fait, tout ça...
On pense à Blanche-Neige, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est qu'est-ce que c'est qu'une réflexion? Qu'est-ce que c'est de réfléchir, de se réfléchir? Enfin, je pense que c'est aussi vraiment quelque chose d'extrêmement genré et une réflexion sur l'apparence des femmes et comment on gère son apparence et le poids que ça peut avoir dans une vie.
C'est aussi quand même l'histoire d'une jeune femme qui se sacrifie pour sauver son père, hein, qui prend la place de son père dans ce château avec une bête effrayante. Ça vous surprend, David Sala?
Ça me surprend pas parce que, je sais pas, on a toujours inculqué depuis des centaines d'années le sacrifice. Les mères, les sœurs se sacrifient aisément depuis toujours. Donc c'est une espèce de continuité et que le père n'insiste pas plus et ne tape pas du poing sur la table pour dire c'est moi qui vais, un point c'est tout. C'est plus ça qui, moi, maintenant, a posteriori, me surprend en étant moi-même père. Mais c'est vrai que c'est pas du tout étonnant. Dans l'idée qu'on se fait de la femme et du sacrifice qu'elle doit faire.
Bon, pour rendre justice au texte original, le père au départ, il est pas d'accord. Hein. C'est la fille, c'est Belle qui insiste, pour y aller.
Mais bon,
Iris Bray.
Oui, il y a quand même une vraie lâcheté des hommes. Hein. Ça, c'est,
je pense que c'est un peu ça.
Récurrent, et c'est normal que ce soit aussi pointé par les contes de fées et par ses autrices.
Différence importante entre le texte de Madame le Prince de Beaumont et le dessin animé de Disney, c'est la faute, la punition. Chez Disney, c'est parce que le prince auparavant a refusé l'hospitalité à une vieille dame qu'il a été puni et ainsi transformé en affreuse bête. Il n'y a rien de tout cela, hein, ni chez Madame le Prince de Beaumont, ni chez Cocteau, Iris Bray. On ne sait pas d'où vient le sortilège.
Oui, alors Alors là, il me semblait pourtant que dans la version de Madame de Villeneuve, il y avait une explication autour du sortilège.
On sait qu'il a eu, il est victime d'un sortilège, point.
Mais c'est les fées, pourquoi. Je crois. Mmh. Je crois que dans la version de vraiment du 17e, c'est à cause des fées. Parce que les fées, à la base, ne sont pas des petites choses merveilleuses comme dans les contes de Disney. En fait, c'est des personnages un peu comme les parcs. En fait, elles sont assez dérangeantes, elles font peur et elles rappellent la mort.
Les Donc, parcs, c'est les déesses de la mort.
Oui, voilà.
Mmh. On le disait, la lecture la plus évidente David Salah, c'est de dire qu'il faut dépasser les apparences et que ce personnage très laid est en fait très beau à l'intérieur. Mais on peut aussi avoir une lecture sur l'amour et la nécessité de l'amour pour rester en vie, parce que c'est ça qui va sauver la bête, le fait que la belle soit amoureuse de lui.
Oui, et puis surtout, on voit ces deux personnages venir l'un à l'autre. Mmh. Et c'est ce parcours qui est assez beau, le parcours de cette... Parce que effectivement, dans le texte, il est dit que le sort qu'a reçu la bête l'empêche de faire preuve d'esprit. En fait, il est prisonnier et de son physique et de son intelligence.
Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête, dit-il. On n'est pas bête, reprit la belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela.
Exactement.
C'est brillant, Iris Bray.
Ouais, ça c'est une des répliques les plus brillantes du conte, évidemment. Et je pense que c'est vrai que c'est une histoire de trajectoire, mais c'est aussi une histoire de compromis. Et je pense que ça parle encore une fois du mariage.
Mais cette impossibilité de devenir un être humain accompli sans un amour véritable aussi, vous la voyez cette lecture-là ?
Moi, je le vois plus comme un compagnonnage, en fait. C'est, il faut être deux pour mieux survivre dans la société. Il vaut mieux être accompagné qu'être seul. Donc, pour moi, il y a quand même une idée de retour à la norme et de comment on s'accommode, en fait, de certaines choses pour pouvoir survivre.
Un dernier mot, Iris Bray, sur la figure de Jean Marais dans le film de Cocteau. Cette bête, quel souvenir de cinéphile en gardez-vous ?
Mais en fait, moi, évidemment, mon souvenir, il est aussi lié à Peau d'âne. Donc, il y a une filiation pour moi entre les deux films par Jean Marais. Je pense que j'ai vu Peau d'âne avant de voir La Belle et la Bête. Donc, en fait, ça change, ça inverse certaines choses. Et du coup, ça m'en donne aussi une lecture un peu queer, parce que Jean Marais était un acteur gay. Et donc, il y a quand même, que ce soit dans Peau d'âne ou du coup dans La Belle et la Bête, je réfléchis à ce corps masculin et à ce qu'il représente. Parce que à la fois, la bête, c'est cette virilité qui fait peur. Et en même temps, le fait d'avoir donné ce rôle à Jean Marais, qui était aussi un acteur très beau, ça donne beaucoup plus de complexité en fait à la lecture du masculin et de la virilité qu'on aurait pu en faire.
Un acteur très beau dont on entend la voix, donc on imagine, c'est un peu comme les acteurs de doublage, on imagine sa beauté en l'entendant.
Oui, bien sûr, enfin de toute façon, là il y a un pacte avec le spectateur qui peut reconnaître la voix et il y a donc cet imaginaire du beau qui va se déployer malgré la laideur de la bête, ou en tout cas l'effroi qu'on peut voir. Et c'est vrai que Jean Marais avait aussi demandé, Cocteau s'est inspiré du chien de Jean Marais, Jean Marais était tout le temps avec son chien, pour dessiner en fait ce visage de bête. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même beaucoup de Jean Marais dans ce visage-là et dans ce qu'il incarnait.
David Salah, quel est votre moment préféré dans cette histoire qu'on a racontée aujourd'hui, La Belle et la Bête ?
Moi je crois que c'est le moment de la mort de la bête, enfin c'est le dénouement finalement. Mmh. Déjà graphiquement, si on revient toujours à
votre illustration,
à illustration. Mmh. C'est vrai que la partie où effectivement il est au bord de l'eau et il est au seuil de la mort et la belle accourt et vient finalement le sauver. Bon, voilà, c'est le vrai dénouement qu'on attendait.
Et vous, Iris Bray, quel est votre moment préféré dans cette histoire ?
Moi, je pense que c'est quand la belle voit la bête pour la première fois et dit qu'elle est effrayée.
Sa sincérité.
Ouais, je trouve ça très fort en fait.
Pourquoi ?
Parce que je pense que c'est étonnant comme réaction, et même c'est quelque chose que nous-mêmes on se permet pas quand on voit des choses auxquelles on n'est pas habitué. Souvent on détourne le regard, et le fait qu'elle ne détourne pas le regard et qu'elle fasse face en fait à ce qui lui fait peur, je trouve que c'est extrêmement courageux.
C'est dit dans le texte, hein, effectivement, elle dit toujours la vérité en fait.
Elle ne peut pas lui mentir.
Donc ça fait partie aussi de son ressenti et de ce qu'elle...
On a peut-être là les prémices de cette histoire d'amour. Si on décide d'y voir une histoire d'amour et pas un mariage forcé, Iris Bray, on a le droit. La sincérité, c'est le premier pas, peut-être, vers une relation amoureuse.
Bah, en tout cas, c'est sûr que de savoir regarder l'autre, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense, en amour.
C'est belle, c'est belle, c'est belle. What you do?
shut your trap.
I'm sipping wine,
sip, sip,
in a robe,
trip, trip.
I look too good,
look too good
to be alone.
Ooh.
My house clean,
house clean.
My pool warm,
pool warm.
Just shake,
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the East Wing and the West.
Open, c'était Silk Sonic sur France Inter. À mon avis, c'est un piège parce que moi, je déteste les portes ouvertes et ça agace toute mon équipe. La Belle et la Bête de Madame le Prince d'Aubemont est disponible en livre de poche chez Folio. On le recommande à partir de quel âge, Iris Bray?
Je crois assez jeune. Je ne sais pas, peut-être que David sait mieux que moi.
David Sala.
Non, très jeune, je suis d'accord, tout à fait.
Une dizaine d'années quand même.
Oui,
parce que c'est pas non plus accessible aux tout petits. Et je recommande surtout la version illustrée par David Sala aux éditions Les Albums Casterman. Quoi d'autre au rayon jeunesse de votre librairie? Voici Denis Chessoux et sa sélection hebdomadaire. On se retrouve avec mes invités juste après.
Dorothée Barbaz sur France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Bonjour Dorothée, ben oui, c'est l'actualité du livre pour enfants. Béatrice Alemania est une grande créatrice franco-italienne et nous offre une nouvelle édition de La gigantesque petite chose, album Casterman à partir de 4 ans. Et cette petite chose est un sentiment, une sensation, un fugitif, une quête, un collage d'instants, c'est le bonheur. Et comment parler et dessiner le bonheur sans l'annoncer bien sûr au début de l'album?
Une petite fille a essayé de l'attraper, comme on ferait avec une mouche.
Quelqu'un l'a traversée au milieu de la pluie, une minute ou deux, tout au plus. Et cette minute lui a suffi.
La dame au crocodile l'a attendue de longs mois sur le seuil de sa porte. Elle n'a jamais rien vu venir. Ou bien, elle ne l'a juste pas reconnue.
Sans banalité, sans mièvrerie, justesse du ton, des textes courts, nets, enveloppés d'une sérénité créatrice.
un vieux monsieur l'a trouvée à l'intérieur d'un flocon de neige, dans le froid qui venait de loin. Pendant un moment, il a cru devenir tout petit.
Joie et nostalgie charmante qui traversent mais vraiment tout le monde. Vous avez de grands aplats de couleurs, des espaces qui traduisent le bien-être, mais aussi la fugacité, l'éphémère renouvelable de ce sentiment.
Difficile à croire, ce bonheur fait très peur à certains. Ceux-là ont fermé des portes, éloigné des gens, bâti des murs.
Car il y a ceux que le bonheur écarte.
Des gens l'ont trouvé dans les odeurs, dans les regards, dans les bras des autres.
Eh oui, comme le bonheur du bébé apaisé. Alors on la voit, on la voit pas, cette petite chose, on sait l'attraper ou non, dans un filet à papillons, dans l'amitié, ou une larme.
Impossible de la garder, cette petite chose, elle ne fait que passer.
Vous avez des illustrations au crayon de couleur, pastel, gouache, des collages, et cette devinette, cet invisible, ce volatile de la vie à trouver est une réussite. Le lien entre les êtres est aussi là, dans la gigantesque petite chose de Béatrice Alemagna, chez Casterman. C'est à partir de 4 ans, et vous l'avez compris, c'est aussi pour tout le monde. Le secret, très secret, du maître du secret de Vincent Pianina, aux éditions Thierry Magnier, à partir de 5 ans. Ah, et si on partait en colo cet été ?
Cette année, pour les vacances, tu quittes ton village de montagne. Tes parents t'envoient une semaine au camp d'été de la Vallée du Secret.
À première vue, on peut y faire du sport. Mais en lisant la brochure, on y apprend beaucoup d'autres choses.
Cette région s'appelle ainsi parce qu'elle garde précieusement le secret. Personne ne connaît le secret, à part une personne, le maître du secret.
Ah, voilà qui excite la curiosité. À quoi ressemble-t-il ?
Il a une grande barbe, une canne, un chapeau rigolo, un artichaut.
Donc la prochaine étape, c'est de réussir à s'en faire un copain. L'objectif est clair.
Ta quête commence. Tu as une semaine pour trouver le maître du secret.
Bah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lui ressemblent. Bon, après des échecs, ah bah tiens, vaudrait mieux tenter sa chance au marché aux 1000 artichauts.
Pas de doute, c'est bien le fameux maître du secret qui se tient là, juste devant toi. Il semble aussi chaleureux qu'un bac à glaçons.
Alors au moment de lui demander le contenu du fameux secret, il refuse catégoriquement.
Parce que le secret doit rester secret, sinon ce ne sera plus un secret.
Il n'est toutefois pas complètement fermé à la révélation.
Écoute-moi bien, espèce de nouille. Nous sommes en plein milieu du marché, là. C'est le pire endroit pour traiter de choses secrètes. Viens plutôt me voir à mon bureau, au cabinet du secret.
Alors la péripétie, le feu prend dans le cabinet à cause d'une ampoule, et ça continue.
Oh, j'en ai une bien bonne à te raconter. Alors, depuis l'électrocution, j'ai oublié le secret.
Comment parvenir à retrouver ce secret et en connaître enfin le contenu ? Eh bien, en lisant la suite de ses aventures saugrenues. Dans un album à la forme innovante, mené à la seconde personne du singulier, et où la construction des illustrations s'apparente à celle des vitraux, Vincent Pianina propose un album donc vraiment insolite et je dirais fripon, jouant sur les comiques de situation, de répétition. Et alors vous avez une attente, on va dire, qui est un peu à la limite du supportable, c'est donc sa force à ce suspense, donc c'est parfait pour les lecteurs curieux, vifs et expiègles, c'est truculent, le secret très secret du maître du secret, aux éditions Thierry Magnier, à partir de 5 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou. Toutes les références à la page de L'as-tu lu, mon petit loup, sur franceinter.fr. Une dernière question à présent pour mes deux invités, Iris Bray et David Sala. Question rituelle dans Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Iris Bray.
L'odeur de mon enfance est évidemment liée à la nourriture, parce que j'aime beaucoup manger. Et donc, c'est celle des burgers que je mangeais sur la plage aux États-Unis, enfant.
Des burgers sur la plage,
ouais,
c'est pas très commode.
C'est pas très commode ni très commun, mais enfin, il y avait cette odeur de grill sur les plages américaines. Voilà, il y a les food trucks avec les burgers, et moi, je me souviens enfant que c'était vraiment ce que je préférais.
J'ai faim. David Sala, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Moi, j'ai passé beaucoup de temps chez ma grand-mère jusqu'à l'âge de 5-6 ans. J'allais pas beaucoup à l'école. Ma grand-mère, il y avait de l'eau de Cologne Mont-Saint-Michel. Et effectivement, elle en mettait sur son mouchoir. Parce qu'à l'époque, on avait des vrais mouchoirs.
En tissu ?
En tissu. Et donc, des fois, elle me disait, je voulais du sambon, on appelait ça comme ça. Donc, je me mettais sur mes mains, et c'était cette odeur d'eau de Cologne, Mont-Saint-Michel.
Vous est-il arrivé de ressentir cette odeur depuis que vous êtes adulte, David Sala ? C'est un voyage en enfance ?
Immédiatement. Mmh. Donc je, quand j'ai l'occasion, effectivement. Mais effectivement, c'est un souvenir tout de suite, c'est immédiat. C'est un retour en arrière instantané.
L'eau de Cologne, Mont-Saint-Michel et les burgers sur la plage. On a un joli mélange olfactif cette semaine dans les odeurs d'enfance. Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard. C'est un livre à mettre entre les mains de tous les ados, les garçons et les filles, bien sûr. Livre d'Iris Bray, illustré par Myrion Mal, édition La Ville Brûle. Et pour les grandes personnes, cette fois, je conseille Le Regard Féminin, une révolution à l'écran, d'Iris Bray, édition Point. Vous avez également participé, toujours chez Point, à un ouvrage collectif dirigé par Chloé Delhomme, intitulé Sororité. On y trouve des textes d'Eugène Chéral, de Lola Lafont, de Lydie Salvert, de Juliette Armanet et de vous, Iris Bray, autour de ce très joli mot, sororité. Quant à David Salah, outre son illustration de La Belle et la Bête, je recommande Le Joueur d'échecs, très belle bande dessinée d'après Stefan Zweig, chez Casterman. Et puis un album co-signé avec Jean-François Chabat, on en parlait tout à l'heure, Féroce, c'est une histoire de loup rouge qui ravira les plus jeunes. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Dorothée.
Bonne soirée et à bientôt sur France Inter.